Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-uppers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage au quotidien pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Bonne écoute! En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré à distance, d'où la qualité sonore un peu impactée. Bonne écoute et merci pour votre compréhension. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Roulet-Furnemont, la directrice RSE des laboratoires Pierre Fabre. Bonjour Séverine, je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Merci de m'accueillir Alice, ravie également.
Je suis encore déçue de ne pas te voir. Normalement, c'est vrai qu'on a ce contact humain, mais je crois que ça t'a arrangé aussi puisque tu es à distance. Hein. Toi, oui. Tu as continué le télétravail ou pas ?
Oui, voilà, je suis toujours en télétravail, donc dans le sud-ouest de la France, entre Castres et Toulouse.
Oh là là, tu me fais rêver. Tu me fais rêver là, parce que j'avoue que moi, à Paris, j'aimerais bien un petit peu me dépayser, mais on est le 2 juin, donc on est déconfiné. Restons prudents, mais en même temps, on peut reprendre une vie à peu près normale. Mais la prochaine fois que tu montes à Paris, on se prendra un café avec grand plaisir. Avant de parler des engagements du coup de Pierre Fabre, j'ai envie de revenir sur ton parcours à toi, cette femme du coup engagée. Est-ce que tu as toujours été engagée? Est-ce que c'est arrivé sur le tard? Enfin voilà, je veux un peu connaître tout ça.
Oui, finalement, j'ai toujours été engagée dans la protection de l'environnement. Alors pour mon parcours, en fait, donc moi, je suis née en Seine-Saint-Denis. J'ai grandi donc dans un milieu très urbanisé. Donc au départ, j'avais pas forcément une vocation de travailler dans l'environnement, mais c'est venu finalement assez tôt. Et d'ailleurs, la première fois que je me suis posé la question de savoir pourquoi je voulais travailler dans la protection de l'environnement, c'était lors de mes premiers entretiens d'embauche, donc dans les années 96, et où on m'a demandé, mais finalement, comment ça vous est venu l'idée de travailler en environnement? Il faut se dire qu'à l'époque, ça semblait assez curieux, en fait. Et aussi loin que je puisse me souvenir, je pense que ça m'est venu très jeune, puisque j'ai en mémoire, en fait, les images de marée noire, en fait, quand j'étais enfant, notamment la Moco Cadiz au large du Finistère. Après, il y a eu beaucoup de catastrophes industrielles, ce qui s'est passé avec Tchernobyl. J'étais en première quand il y a eu la marée noire de l'Exxon Valdez. Et là, je me dis, je vais être océanographe. Le bac en poche. Mes parents me conseillent quand même un peu de prudence parce que c'est quand même pas des postes qui courent les rues. Et donc je décide d'assurer mes arrières. Je fais d'abord un BTS de chimie en me disant quoi qu'il arrive, j'aurai un diplôme qui me permettra de travailler facilement. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que à l'issue de mon BTS, en fait, s'est ouvert une filière universitaire en génie de l'environnement à Jussieu, à Paris 7, Université Paris 7. Et donc, c'était vraiment les tout premiers diplômes entièrement consacrés, en fait, à l'environnement. Donc, ça s'appelait un institut universitaire professionnel. Et donc, pendant 3 ans, j'ai étudié sur tout ce qui était protection de l'environnement au sens gestion des rejets, gestion des déchets, tout ce qui est maîtrise de la réglementation environnementale. Et donc, je suis sortie avec ce diplôme en 96 et là, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai trouvé du boulot quasiment tout de suite. J'ai été embauchée par l'entreprise où je faisais mon stage. Mais c'est vrai que à l'époque, c'était très souvent en fait qu'on me posait la question ce genre d'étude, à quoi ça sert en fait? Donc c'est là qu'on voit quand même le chemin parcouru dans les têtes et les esprits, parce qu'aujourd'hui je pense que ce type de questions ne viendrait plus, mais à l'époque on était vraiment une curiosité, hein. Il y avait je crois à peine 2 ou 3 diplômes en France qui étaient entièrement consacrés à ça, et donc on était, voilà, ça dénotait dans le paysage en fait.
Donc, il faut dire que t'étais quand même vraiment en avance, parce que c'est en avance. Il y a jamais trop d'avance, hein. Mais par rapport à cet essor que l'on voit actuellement, t'étais quand même, c'est vrai, pas au début, mais t'étais pas au pic de la demande et du besoin même des entreprises sur ces problématiques-là.
Ah non, mais ne serait-ce que trouver un stage à l'époque, c'était vraiment un parcours du combattant énorme. Hein. C'est d'ailleurs moi j'ai fait, mon papa étant à l'EDF, j'ai fait quasiment tous mes stages à l'EDF en fait. Donc à part le dernier stage que j'ai fait, donc qui était déjà donc dans l'industrie pharmaceutique, donc là j'ai travaillé 4 ans dans un premier laboratoire pharmaceutique. Donc c'était l'environnement à l'époque, c'était si tu veux du réglementaire pur et dur. Quoi. On s'occupait de gestion des déchets, des rejets. C'était même si la réglementation elle existe depuis longtemps hein, puisque ça date du code napoléonien. Malgré tout, c'était pas quand même très appliqué à la lettre en France. Et ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est l'accident d'AZF sur Toulouse en 2001 en fait, où là vraiment il y a eu un essor de cette réglementation et de l'application de cette réglementation. Donc moi j'ai fait 4 ans donc dans ce premier laboratoire pharma. Et en fait, je suis arrivée chez Pierre Fabre en 2000, tout simplement parce que j'ai suivi le directeur industriel que j'avais connu dans mon premier emploi, qui était arrivé chez Pierre Fabre. Donc, j'arrive il y a 20 ans.
Donc c'était pas un coup de cœur pour la boîte, en fait, ni pour l'univers. C'est vraiment un mentor, finalement.
Oui, voilà. Au départ, voilà, moi, j'ai suivi vraiment ce directeur qui avait vraiment une appétence en plus pour ces sujets environnementaux. Par contre, c'est un réel coup de cœur quand je suis arrivée dans cette région et que j'ai découvert cette entreprise. J'ai eu la grande chance d'y rentrer alors que le fondateur était encore là. Et on ne peut qu'admirer en fait l'homme, le visionnaire qu'il était et la façon dont il a pensé son entreprise et la façon dont il a mis à l'abri cette entreprise après sa disparition. Donc voilà, donc j'ai fait 10 ans en protection de l'environnement pure et dure, donc au sens industriel du terme, et ça fait 10 ans maintenant que je suis directrice RSE voilà des laboratoires Pierre Fabre. Donc voilà pour le parcours.
10 ans, en 10 ans, t'as dû voir tellement d'évolutions en matière de demandes et de besoins. Est-ce que tu peux m'en parler, toi justement, et notamment dans ton secteur d'activité qui forcément doit être challengé par ces nouvelles problématiques. Enfin, nouvelles, non, c'est pas des nouvelles problématiques, mais c'est vrai que la prise de conscience est plutôt récente.
Oui, alors après, en plus, ce qui est rigolo dans mon parcours, c'est que moi, je commence à bosser en 96, c'est l'année de la publication de la norme ISO 14001 sur le management de l'environnement. Et quand je suis nommée directrice du développement durable en 2010, c'est l'année de la publication de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est un métier, enfin à l'époque où moi je l'ai commencé, où finalement tout est toujours nouveau en fait. C'est-à-dire qu'on est on est face à des nouveaux défis et faut inventer les méthodes. Donc en gros voilà ce qui sème en fait sur mon parcours. Mais cette entreprise, la particularité, c'est que comme c'est une entreprise familiale hein, qui a été vraiment créée par Monsieur Pierre Fabre, la façon dont il gérait les choses, il avait finalement anticipé énormément de choses. Quand moi je suis rentrée en 2000, le claim de l'époque, c'était être partout dans le monde tout en étant là. C'était déjà une entreprise à fort ancrage territorial. C'est un homme qui avait vu la désindustrialisation avec l'industrie textile dans sa région. Et donc, il avait à cœur de faire profiter finalement sa région d'origine de sa réussite économique. Ça paraît pas, mais à l'époque, c'était vraiment pas le nec plus ultra. Hein. C'était l'époque de la mondialisation, des échanges internationaux. Dire qu'on dirige une entreprise depuis Castres dans le Tarn, c'était pas jugé comme le truc le plus moderne à l'époque.
Le siège social est toujours basé là-bas. Hein. Y a pas de bureau à Paris ou tu as des bureaux à Paris et il y a un nouveau siège à Paris?
Il y a des bureaux à Paris. Il y a notamment toutes les fonctions qui sont en lien avec les autorités, notamment les autorités en lien avec le médicament ou tout ce qui va être relations presse. Mais les centres de décision sont dans le sud-ouest de la France.
Donc, moi, j'adore. Hein. Je viens de voir avec ma planche de surf et j'arrive. Hein.
Pas de souci. On n'a pas la mer, mais on est entre les deux mers.
C'est pas loin.
Donc, c'est vrai, un fort ancrage territorial, ce qui caractérise cette entreprise. Après, une entreprise qui a toujours, toujours mené des recherches sur tout ce qui est la science du vivant, les végétaux, l'eau thermale. Il faut savoir que 70% de notre chiffre d'affaires repose sur des produits dont l'actif est issu de la nature. Donc ça aussi, il y a 20 ans, on n'en était pas comme aujourd'hui avec le bio, les produits naturels. C'était un peu naviguer à contre-courant de continuer à faire des actifs qui sont issus des plantes. Parce que nous, on a des actifs de plantes aussi bien en pharmacie qu'en dermocosmétique. Nos anticoncepteurs.
Oui, donc en fait, tes plantes devaient être déjà, puisque c'est la matière première, elles devaient être forcément hyper contrôlées. Et ce n'était pas le cas au début quand tu es arrivée.
Si, c'était déjà très vite, en fait, Monsieur Fabre avait monté ce que l'on appelait, nous, à l'époque, la phytofilière, qui était le contrôle des végétaux depuis la recherche, le développement et la façon de les cultiver pour en garantir, en fait, la qualité.
D'ailleurs, je pense qu'à la base, c'était plus une dynamique de qualité, de recherche de qualité, plutôt que maintenant, qui est vraiment la transparence et la traçabilité aussi au même niveau.
Voilà, c'est ça. C'était de garantir la qualité, déjà dans l'idée aussi de limiter tous les intrants, tous les pesticides, etc. Il a toujours voulu n'apporter au consommateur que le juste nécessaire, ce que le consommateur avait besoin pour se soigner en fait. Il est par exemple à l'origine de ce qu'on appelle la cosmétique stérile. Donc la cosmétique stérile, hein, c'est une technique de fabrication, on va stériliser les produits pendant la fabrication. Les premiers produits sortent en 96 en unidose et on va mettre plus d'une dizaine d'années à amener cette technologie sur des flacons et des tubes pour pouvoir amener des produits en cosmétique stérile dans des formats plus appréciables pour le consommateur et aussi plus écologiques parce que plus grande contenance. Et aujourd'hui, c'est la seule technologie qui permet finalement de garantir des formules sans conservateur. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment cette vision du besoin, en fait, sur le long terme. Et de fait, de travailler sur des plantes, forcément, on est sur du vivant. Donc, comme on est sur du vivant, bah, c'est plus aléatoire. Il y a les risques climatiques et on peut avoir une mauvaise récolte d'une année sur l'autre. Et donc, il y a cette notion de sécurité des approvisionnements et de pérennité des ressources. Donc, il y a toujours eu aussi ce travail pour mettre en culture, pour ne pas épuiser en fait les ressources qui étaient utilisées par le groupe.
Et dans l'évolution du coup des mesures mises en place par Pierre Fabre, nouvelles, on va dire, qui sont arrivées tout au long de ces 10 ans, donc je pense que tu vas pas toutes me les citer, mais peut-être celles dont tu es le plus fière ou celles qui ont eu le plus d'effets positifs, on va dire, pas sur le business, mais sur l'environnement, sans doute.
Ah, en fait, je pense souvent on me demande si tout ça existait en fait avant qu'il y ait ce poste en développement durable, qu'est-ce que ça a changé? Je serais tentée de dire que avant, on pouvait par exemple mener des projets dans le packaging où on allait développer l'utilisation de plastique recyclé. Nous, les premiers flacons plastique recyclé, c'est 2011. On menait des procédés de chimie verte pour faire des actifs issus de solvants renouvelables. On pouvait avoir des formules biodégradables. Mais ce que ça a changé, si tu veux, c'est quand on attaque un projet de produit, d'avoir les actions sur toute la chaîne de développement du produit. C'est-à-dire de penser de l'étape du champ. Donc, disons que un produit, à partir de 2010, il va essayer de cocher toutes les cases. Donc, il va être cultivé en agriculture biologique. Derrière, on va penser le procédé pour que ça soit un procédé chimie verte. Ensuite, on va fabriquer ça dans une usine. Les usines, on a fait toutes les dernières extensions en haute qualité environnementale. Ensuite, on va penser les packaging pour qu'ils soient éco-conçus, pour qu'ils puissent en fait avoir une ergonomie qui permette de se transporter le moins de vide possible, par exemple. Les formules vont être pensées pour être soit naturelles, soit biodégradables ou limiter le nombre d'ingrédients. Et après, on va penser la fin de vie de façon à avoir un maximum de recyclage, en fait, des emballages, par exemple. Donc, ce que ça a amené, c'est vraiment une cohérence d'ensemble sur tout le cycle de vie du produit. Donc, c'est vraiment ça, je pense, que ça a changé. Ça a été aussi les premières expérimentations françaises puis européennes pour un affichage environnemental, les premières analyses du cycle de vie produit, et ça a permis de mettre autour de la table toutes les équipes, en fait, de l'entreprise pour avoir cette vision holistique, on va dire des choses. Et pour que derrière aussi chaque produit, il y ait un engagement qui soit porté. Pour te citer un exemple, l'un des derniers lancements de la marque Chlorane, c'est des soins à partir d'une plante qu'on appelle la menthe aquatique. Et cette menthe aquatique, donc, elle répond à tout ça. Hein. C'est une culture bio, c'est un nouveau procédé d'extraction sans eau et sans solvant.
C'est une algue, du coup, c'est une algue.
Non, en fait, ça s'appelle menthe aquatique, mais non, c'est pas une algue, en fait. Non, non, c'est de la menthe.
Ah, d'accord.
De cette
aquatique.
Ça s'appelle comme ça, ouais. Et en fait, cette menthe aquatique, donc, nous, on l'utilise dans des soins qui sont des soins anti-pollution. Pour enlever tous les polluants que tu as sur les cheveux ou sur la peau, t'as accumulé au cours de ta journée. Et comme elle a ses propriétés dépolluantes, bah en parallèle, on mène un projet de dépollution dans une rivière des Cévennes, ou avec de la poudre en fait de cette plante qui est placée dans des colonnes, on dépollue la rivière. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'avoir derrière chacun de nos produits un engagement qui soit porté, soit il est porté sur le végétal lui-même, parce qu'il y a des propriétés qui permettent, au-delà d'un produit cosmétique, de faire d'autres choses avec cette plante, ou différents engagements. Je pourrais te citer, par exemple, ce qui a été fait aussi sur les produits solaires. On a beaucoup travaillé sur les produits solaires au travers d'une campagne qui s'appelle Skin Protect Ocean Respect avec la marque Aven. Donc, cette campagne, c'est quoi? Bah là, une fois de plus, on était questionné sur les produits solaires. Donc, on a travaillé à faire des formules qui aient toujours la même efficacité en termes de photoprotection, mais qui soient plus écologiques. Donc, on a supprimé les silicones, on a travaillé sur un système de filtres solaires en n'ayant que 4 filtres solaires et en réduisant le plus possible la concentration. Mais en parallèle, on a travaillé avec une entreprise sociale qui s'appelle Pure Projet pour voir comment on pouvait faire pour créer ce qu'on... Le mot n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé, mais comment créer de la reforestation.
J'aime bien les nouveaux mots, moi.
Ouais, et donc en fait, Pure Projet avait imaginé ce projet, mais n'avait pas encore pu le démarrer. Et donc on a au large de Bali, en fait, a été mené donc un projet. Ce sont des structures en métal qui sont mises au fond de la mer. Il y a un courant faible, si tu veux, qui passe dans la structure, et ça permet de faire on greffe des coraux. Et ça permet de faire pousser plus vite ces coraux et de voir si on ne serait pas capable finalement de faire ce qui a été fait sur les terres immergées, de faire de la reforestation, mais de le faire sous l'océan. Donc en fait, derrière ce projet de produits solaires, on retrouve tout un travail sur les formules. On trouve aussi un travail sur les packaging, notamment on a sorti un flacon sans bouchon. Et on a également cet engagement que l'on porte avec Pure Projet. Donc c'est vraiment comment on a des démarches qui sont holistiques et plus des démarches qui vont être dispersées dans les métiers de l'entreprise, en fait.
Et c'est vraiment une réflexion finalement à prendre dans son intégralité, c'est-à-dire pas uniquement agir sur un paramètre, mais sur un écosystème complet. Moi, j'ai une autre question. Souvent, les produits bio, écologiques, responsables et moins négatifs pour l'environnement, parce que c'est compliqué de rester positif quand on est dans la consommation. D'ailleurs, ça peut être un sujet. Mais souvent, ils sont perçus comme moins efficaces. Avez-vous réussi à maintenir, voire même peut-être à améliorer l'efficacité des produits, ou parfois, il faut être honnête, miser sur un produit bio, etc., du coup, diminue l'efficacité quand on enlève certains ingrédients.
Alors, je vais répondre à ça par deux exemples. Tu vois, c'est typiquement la question qu'on s'est posée quand on a mené ce projet là, solaire Skin Protect Ocean Respect avec Aven, parce que c'est un peu ce qui s'est passé dans l'univers des lessives.
Mais c'est exactement les marques que j'ai en tête, enfin, les produits que j'ai en tête, notamment parce que j'ai accompagné pas mal de marques comme l'Arbre Vert, et parfois il y a des questions qui se soulèvent forcément.
Voilà, c'est ça. Et en fait, quand on a lancé la campagne avec Aven, la même année a été lancée une étude en fait sur l'efficacité de ces crèmes solaires qui n'avaient jamais été lancées auparavant, et c'était une étude sur peau réelle qui a été menée en Angleterre, puisque le phototype des Anglais est un phototype assez sensible. Et en fait, c'est la première fois qu'on menait ce type d'étude qui démontrait qu'il n'y avait pas de lésion de l'ADN, même si on appliquait ne serait-ce qu'un tiers de la dose recommandée en produits solaires. Et donc, quand l'année où on a sorti la campagne Skin Protect Ocean Respect, finalement, on a montré le côté écologique et les travaux qu'on avait menés sur les formules, et en même temps, on a montré que l'efficacité était garantie. Donc, je pense que c'est important, en tous les cas, d'avoir toujours cette vision à la fois l'efficacité du produit et à la fois le côté écologique. Après, pour répondre spécifiquement sur les produits bio, nous, en fait, on a des marques essentiellement dermatologiques. Puisque Pierre Fabre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est les marques Aven, Aderma ou Ducré, plutôt en dermatologie. Et en capillaire, on a Chlorane et René Furterer. Et donc, ce qui va être plus compliqué pour nous, c'est le côté allergène. Dans les produits bio, les parfums sont des parfums naturels et donc c'est des parfums qui vont avoir plus d'allergènes. Donc en fait, la difficulté, c'est de trouver le bon compromis. C'est toujours une histoire de compromis. On est sur des niveaux de gris qui vont du gris clair au gris foncé en fait. Et c'est toujours, il faut toujours peser le pour et le contre. Et je pense qu'il faut amener cette transparence au consommateur en fait.
Lui dire, c'est voilà, exactement ça. De toute façon, le consommateur, il consomme acteur. Donc il a forcément envie de savoir quand il se soigne ou quand il utilise quelque chose, ce qu'il met sur sa peau, par exemple, si on prend l'exemple des crèmes ou autres. Et parfois, il y a des ingrédients, comme tu me le disais justement, qui ne peuvent pas être remplacés, en fait, s'ils doivent guérir quelque chose. Oui, c'est bien ça, si je résume un peu tes propos.
Oui, c'est ça. Typiquement, nous, sur nos shampoings, on les formule comme le demande l'écolabel européen. On ne va pas jusqu'à l'écolabel parce qu'on est empêché, comme tu dis, pour des histoires d'efficacité ou de parfum. Mais en tous les cas, on se sert de ces référentiels. Et après, on cherche le meilleur compromis.
Oui, tout à fait. Penses-tu qu'à terme, ce serait possible de tout trouver dans la nature ou pas? C'est vraiment une question philosophique là que je te. C'est-à-dire, tout trouver dans la nature, c'est que de produire des produits. C'est un peu redondant, mais de créer des produits. Sans mettre ce type d'ingrédient, ou tu penses que c'est pas possible en fait?
Moi, je pense qu'il y a pas de, solution idéale en fait. Il y a pas de. Si tu prends tout dans la nature en même temps, ça veut dire que tu vas cultiver. Et si tu cultives, il faut pas non plus déforester. Donc, en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est toujours un compromis. Et c'est toujours la recherche du meilleur compromis.
De toute façon, tu le vois très bien de par tes fonctions. La RSE, c'est un curseur à mettre pour justement avoir une empreinte positive, pour reprendre le nom du podcast, et non négative. Donc, c'est un curseur à mettre entre différents paramètres, finalement, les critères RSE.
Oui, tout à fait. Exactement ça.
Et ils évoluent avec le temps, d'ailleurs, ces critères. Ils sont souvent remis en question. Ils sont souvent challengés.
Ils évoluent avec le temps parce que là, par exemple, si tu prends les enjeux climatiques, je pense que comme beaucoup d'entreprises, on est en train de définir notre trajectoire de degrés pour savoir quelle est la stratégie qui permet à chaque entreprise de s'inscrire dans cette trajectoire. Et concrètement, une trajectoire de degrés pour une entreprise comme la nôtre, c'est une réduction de plus de 80% de ses émissions de CO2 d'ici 2050. Donc, c'est de toute façon des changements de modèle économique qui sont assez radicaux, en fait, hein. Donc oui, c'est en évolution perpétuelle, et c'est en évolution aussi, bah, parce que heureusement il y a des ruptures technologiques qui arrivent sur le marché, et oui, donc ça évolue tout le temps. Après, la difficulté presque, c'est que des fois t'es même en avance de phase. C'est beaucoup les mots de la société aujourd'hui, hein, c'est qu'on est en avance de phase par rapport au carcan réglementaire, à tout ce qui peut exister. Enfin, je sais que nous, par exemple, on a mis en place une chaudière biomasse qui brûle nos mares de plantes. C'est-à-dire quand on a fini de faire nos extraits, nos déchets de plantes sont brûlés dans une chaudière pour produire l'eau chaude et la chaleur d'une de nos usines. Bah, quand on a fait ça, la réglementation n'existait pas encore. Donc, tu débroussailles des terrains, y compris des terrains réglementaires, et c'est compliqué, en fait. C'est très, très compliqué.
Et quels sont les prochains challenges pour Pierre Fabre, justement? Est-ce que, pour le moment, ils sont prédéfinis ou ça évolue tout le temps ou...
Non, bah, si je devais en citer, donc on a parlé de la trajectoire de degrés pour le climat. Ce que l'on souhaite faire aussi, c'est créer une forme de... Comme on a le Nutri-Score dans l'alimentaire, c'est créer finalement un score d'éco-socio-conception des produits. Sur lequel on mettrait en toute transparence quels sont les critères qui nous permettent de dire qu'un produit est éco-conçu et à quel niveau d'éco-conception, en fait, et de rendre transparente cette information. Quand vous achetez ce produit-là, voilà comment est fait le pack, voilà comment est la formule, est-ce que c'est chimie verte, est-ce que c'est culture bio, etc. On a aussi des projets pour embarquer nos clients, nos partenaires, notamment les pharmaciens. On a co-construit en fait une méthode d'auto-diagnostic RSE pour la pharmacie d'officine avec une agence de Béziers qui s'appelle Primum Nonocéré. Les trois premières pharmacies ont été labellisées en France, et l'idée, c'est de se dire voilà comment on va au-delà de l'activité Pierre Fabre, comment on embarque aussi les partenaires dans cette aventure. 22 000 pharmacies en France, si toutes se mettent à faire des économies d'énergie, des économies d'eau, etc., bah, quelque part, voilà, c'est un peu un aboutissement d'aller au-delà, en fait, de la seule activité de l'entreprise, quoi.
Et j'ai envie de te poser une question plus personnelle. Toi, est-ce que du coup, tu as évolué aussi en ce sens dans ta consommation personnelle en tant que consommatrice? Est-ce que tu es plutôt une militante, plutôt une flexi comme moi, un peu flexi tout, c'est-à-dire j'essaye de trouver le juste milieu dans ce que je fais au quotidien? Ou est-ce que toi, tu es une écolo convaincue, par exemple vraiment zéro déchet, végane, etc. Ou pas du tout? Ou est-ce qu'au final, toi, pas du tout?
Si, moi, je pencherais plutôt comme toi, plutôt flexi. Après, c'est une aventure de famille, hein. Mes deux enfants sont éco-délégués.
Bien sûr.
Et dans l'éco-design. Donc, on a appliqué pas mal de choses, notamment dans la façon de construire notre habitat, voilà, ce genre de choses. Et après, voilà, moi, je...
Dans ta façon de construire ton habitat, donc, vous l'avez fait construire sur des normes responsables?
C'est oui, ça. Oui, ça. Et puis, alors, on a dû être les premiers dans le Tarn à installer un chauffe-eau solaire. Hein. C'était toute une aventure.
Génial. Et ça va peut-être tu as peut-être influencé la population locale à faire de même. C'est génial.
C'est pas, mais en tout cas, on essaye, bien sûr, d'être en cohérence dans notre vie quotidienne, sans pour autant être des jusque-boutistes, en fait. Hein.
Tu sais, je pense que tout ce qu'on disait, tout dans l'excès, même ce que l'on pense être bon dans l'excès n'est pas forcément bon. Moi, je sais, par exemple, je ne pourrais pas être végane. Les médecins me l'ont dit. J'ai un besoin de protéines issues des animaux que je ne peux pas retrouver autrement, parce que c'est les cartilages, etc. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas. En fait, il y a des choses que l'on ne peut pas faire de par sa nature, et du coup, on peut se mettre en danger aussi. Donc, il faut faire attention.
Oui, tout à fait. Donc voilà, je pense que voilà, c'est toute une question d'équilibre, en fait.
Exactement. Et puis d'être en phase avec ce que l'on pense et ce que l'on encourage. Et est-ce que tu as envie de rajouter des éléments qu'on n'aurait pas abordés, soit sur toi, soit sur Pierre Fabre, sur ton confinement? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que toutes ces actions de RSE, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des visions de long terme, en fait. C'est que, moi, là, ce que je dis, la chance que j'ai eue quand je suis arrivée à ce poste en RSE il y a une dizaine d'années, c'est que, bon, bah, Monsieur Fabre avait pensé la cosmétique stérile, ça a mis 10 ans pour sortir les produits en tube. Quand tu passes en agriculture biologique, c'est minimum 3 à 4 ans. Quand tu fais une chaudière biomasse, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, bah, c'est minimum 5 ans de démarche réglementaire, du PET recyclé, c'est 8 ans. Donc, c'est vraiment des visions sur le long terme et quelque part, ce que l'on décide aujourd'hui, sans doute, aura encore plus d'influence sur les générations futures. Et j'ai envie de citer Pierre Fabre qui disait « Parce qu'il est fondé sur des recherches au long cours, notre métier exige des visions de long terme. » Et je pense qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est que il faut certainement pas agir dans la précipitation, mais certainement qu'il faut agir en pensant pour dans 10 ans, pour dans 20 ans. C'est ça pour moi qui est important dans les décisions qu'on prend aujourd'hui.
Et ben c'est sur ces très jolies phrases, très encourageantes et pour être répétitive, très vraies, qu'on va terminer ce podcast. J'étais vraiment ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Merci pour ce message inspirant et qui sera du coup entendu par nos auditeurs. J'espère que tu as passé aussi un bon moment parce que moi c'était le cas. Merci à tous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, Podinstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous pouvez aussi nous mettre quelques petites étoiles sur Apple Podcasts, ça nous ferait un grand plaisir. Vous recevrez aussi, si vous souhaitez vous abonner, une newsletter sur l'empreinte dans laquelle nous essayons de vous trouver du croustillant en matière de RSE. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée.